Dans quelques minutes, vous retrouvez Pierre Judet de la Combe quand les dieux rôdaient sur la terre, qui nous parle d'Aristophane et de sa pièce Les Grenouilles. Eh bien, on est juste à l'heure puisqu'il est exactement 11h sur France Inter. Les infos, Timour Özturk. Bonjour Timour.
Bonjour à tous. Un nouveau mort en Nouvelle-Calédonie, un caldoche tué par balle. C'est la première fois depuis le début de la crise. Et en dehors de Nouméa, la fusillade s'est produite sur un barrage tenu par des Kanaks dans le nord de la grande île. Quand deux caldoches, un père et son fils, ont tenté de forcer le passage, c'est le père qui est mort. Son fils a été blessé, ainsi qu'un Kanak qui tenait la barricade. Le bilan est donc désormais de 6 morts, 3 Kanaks, un caldoche et 2 gendarmes depuis le début des violences lundi. On déplore aussi des centaines de blessés. Ils rassemblent quelques affaires et quittent leur domicile avant l'arrivée des Russes. L'Ukraine évacue près de 10 000 personnes dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays à l'est, où Moscou mène une offensive et a conquis entre 5 et 10 km de terrain depuis la frontière entre les deux belligérants, soit au total 278 km² occupés entre le 9 et le 15 mai, les gains territoriaux les plus importants pour la Russie depuis 2022. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit s'attendre à un assaut russe plus large dans le nord et l'est de l'Ukraine pour menacer directement la ville de Kharkiv. Dans un entretien à l'AFP, Volodymyr Zelensky admet un manque d'effectifs. Il y a un nombre important de brigades qui sont vides, reconnaît-il. Aujourd'hui, une loi pour accélérer la mobilisation militaire entre en vigueur en Ukraine et la baisse de 27 à 25 ans l'âge de l'enrôlement. Il va devoir s'expliquer devant les juges. Le suspect de la tentative de meurtre du Premier ministre slovaque, Robert Fico, est arrivé au tribunal ce matin. L'homme, âgé de 71 ans, a tiré 5 coups de feu sur le Premier ministre mercredi et l'a touché à 4 reprises. Robert Fico, dans un état grave, a subi une deuxième opération chirurgicale hier, mais ses jours ne sont plus en danger. 300 palettes d'aide humanitaire pour des millions de Gazaouis affamés. Les États-Unis ont déchargé un premier navire sur la jetée flottante construite par Washington sur la côte de l'enclave palestinienne. Environ 500 tonnes de denrées alimentaires et de matériel d'urgence doivent arriver dans les prochains jours depuis Chypre. Même s'il ne pleut plus, la Moselle, toujours en vigilance rouge, menacée par les crues, notamment celle exceptionnelle de la Niée. Sur la Niée réunie, le pic de crue à plus de 5 mètres est en cours. La hauteur atteinte dépasse les crues historiques de 1983 et de 1997. Le Bas-Rhin, pour sa part, reste en vigilance orange et la Meurthe-et-Moselle repasse en vigilance orange également. Dans un mois, le 9 juin, dans l'isoloir, vous aurez le choix entre 37 listes pour les élections européennes. Les candidats avaient jusqu'à hier soir 18h pour déposer ces listes. Ils ont été 3 fois plus nombreux à le faire qu'aux dernières élections européennes en 2019.
France Inter, partenaire de la quinzaine des cinéastes. Jusqu'au 25 mai, la quinzaine des cinéastes revient au Festival de Cannes pour sa 56e édition. La quinzaine, c'est une sélection libre et audacieuse de 30 films ouverte au public pour fêter le cinéma dans toute sa diversité. Des films que vous pourrez également découvrir lors de la quinzaine en salle du 5 au 16 juin dans les cinémas près de chez vous. La quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes jusqu'au 25 mai. Un événement France Inter.
Lorsque Marie Curie commença ses recherches, on guérissait moins de 10% des patients atteints de cancer. Aujourd'hui, c'est près de 60%. Il faut aller plus loin. Les chercheurs de l'Institut Curie ont besoin de vous. Chacun de vos dons bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune immobilière. Donnez dès maintenant sur curie.fr.
11h04, vous êtes bien à l'écoute de France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre, la mythologie vous est racontée par Pierre Judet de la Combe.
Quand les dieux rôdaient sous la terre, il y a très longtemps en Grèce. Si les dieux allaient sous terre, c'est que ça allait mal dessus. Beaucoup de gens à Athènes disaient « c'était mieux avant, c'était mieux, beaucoup mieux ». Quand Athènes était encore glorieuse, quand cette cité magnifique avait la force de s'opposer avec panache et succès à l'envahisseur perse, qu'Athènes a vaincu à Marathon et à Salamine. Quand Athènes, avec ses bateaux et sa puissance, avait pu se constituer un empire dans les îles de la Méditerranée et sur les côtes de l'Asie mineure. Quand Athènes était respectée, admirée. Et surtout, quand Athènes n'était pas menacée par son perpétuel ennemi, la ville de Sparte. Ces Spartiates étaient un peu plouques, sommaires. Ils n'avaient pas le raffinement, la culture des Athéniens. Mais ils étaient plus forts, plus malins. Ils étaient en train de gagner la longue guerre qui, depuis près de 70 ans, opposait Sparte et Athènes.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Nous sommes en l'an 405 avant notre ère. L'armée des Spartiates est tout près d'Athènes, à une vingtaine de kilomètres. Les Athéniens sont épuisés, découragés. Et puis, catastrophe des catastrophes, leurs deux immenses poètes, les deux grands auteurs qui les ont tenus en haleine pendant tant d'années, Euripide et Sophocle, viennent de mourir, coup sur coup. Sur le plan politique et militaire, ça n'allait pas fort. Sur le plan artistique, ce n'était pas mieux. Athènes était orpheline en poésie. Cette mort des poètes tragiques était une vraie catastrophe. Les Athéniens étaient fous de théâtre. C'était pour eux comme une drogue. Les grands festivals de comédie et de tragédie étaient des événements majeurs dans la vie de la cité. Les Athéniens y venaient en foule. Et dès que la navigation redevenait possible au printemps, les étrangers aussi. Le public entrait facilement en transe, véritablement transporté par la vitalité colorée des spectacles, leur ampleur, par la virtuosité des acteurs, la puissance des musiques, des danses, des mots. On a du mal à imaginer à quel point c'était entraînant, vivant et profond. Le théâtre était un espace libre où tout pouvait être montré en dehors des cadres convenus. Tout pouvait être examiné, soupesé, exacerbé, sans tenir compte des limites imposées par la politique, le droit, la religion, la morale. On laissait libre cours à l'imagination. Les morts très rapprochées d'Euripide et de Sophocle ont dû être ressenties durement. Avec Eschyle, le vieux poète, qui avait donné toute sa noblesse à la tragédie et qui était mort bien avant, il formait les grandes références de l'art tragique. Le trio Eschyle, Sophocle, Euripide était déjà vénéré du vivant des deux derniers, alors qu'il y avait une foule d'autres auteurs tragiques, mais paraît-il, ils ne faisaient pas le poids. Euripide, le poète le plus populaire, l'effronté audacieux qui a révolutionné l'art de la tragédie, est mort dans l'hiver 407-406 avant Jésus-Christ. Il est mort en Macédoine, au nord de la Grèce, où il s'était réfugié car les troubles politiques d'Athènes rendaient sa vie peu sûre. Là-haut, en Macédoine, il serait mort à cause des rigueurs de l'hiver. Mais ce n'est que l'une des versions de sa mort. Euripide était tellement célèbre, tellement complexe, tellement ambigu, surprenant, que les légendes se sont multipliées sur son décès. Et voilà que peu de temps après, l'autre très grand poète tragique disparaît, Sophocle, l'auteur d'Antigone, de Dix Proies, de Philoctète et de tant d'autres pièces, meurt en 406 avant notre ère. Il était âgé, il avait 90 ans. C'est vieux pour un grec, mais ça ne console pas. Pour Sophocle aussi, on a plusieurs légendes sur sa mort. Si on croit tout ce qu'on a dit dans l'Antiquité, Sophocle serait mort plusieurs fois. On a raconté qu'un jour, un acteur a offert une grappe de raisin à Sophocle.
Sophocle mit dans sa bouche un grain encore vert et son grand âge fit qu'il en mourut étouffé.
Le raisin, offert au vieux poète par un acteur, fait penser à Dionysos, le dieu de la vigne et du théâtre. Cela veut sans doute dire que Sophocle est mort parce que lui, qui était vieux, vintage, n'a pas supporté l'art nouveau, révolutionnaire, et pas encore mûri, acide, qui tentait de s'imposer. Cet art nouveau était celui d'Euripide, son perpétuel rival, qui lui a cherché des noises pendant toute sa carrière. Sophocle était enfin délivré de cet adversaire par la mort d'Euripide qui a précédé la sienne. Mais Sophocle est mort peu après lui. Une autre version dit que Sophocle est mort non pas étouffé par du raisin, mais par lui-même, à cause de la longueur interminable de ses phrases.
Satyros prétend au contraire qu'il lisait son Antigone et qu'étant tombé finalement sur une phrase longue et qui ne comportait ni point ni virgule permettant la moindre pause, il força trop la voix et perdit ainsi la vie et la voix en même temps.
Le pauvre Sophocle était connu pour avoir une petite voix. Il était microphone, microphonos, et ne pouvait pas jouer ses pièces, et même pas les lire. À l'époque, on lisait à voix haute. Sophocle n'a pas résisté à ses propres créations. Rien ne va plus. Les deux grands maîtres de la tragédie ne sont plus là. Ils ont rejoint chez les morts le vieil Eschyle. Ces grands auteurs sont irremplaçables. Ceux qui restent sont, paraît-il, mauvais. On ne saura jamais si c'est vrai. Nous n'avons presque rien conservé des poètes qui ont survécu ou qui ont succédé à Sophocle et à Euripide. Mais ça se disait, c'était mieux avant. Côté politique et militaire, c'est plus que critique. Athènes est au bord de la catastrophe. Encore un an. Et en 404 avant notre ère, Athènes sera vaincue par Sparte. La guerre sera perdue pour les Athéniens. Il faudra capituler. La démocratie défendue par Athènes subira une grande défaite face à Sparte, la ville ennemie de la démocratie, amie d'un gouvernement restreint à un groupe social. Pourtant, Athènes la démocrate s'était bien battue, si on peut dire. Il y avait eu un sursaut, une vraie dynamique, après de grandes crises politiques. La démocratie avait été remplacée pour un temps par des tentatives de gouvernement restreint, oligarchique. Mais ces tentatives ont échoué. Et les adversaires de la démocratie avaient même été privés de leur citoyenneté. Puis, Athènes s'était ressaisie militairement. Elle avait même remporté une grande victoire avec ses bateaux. Les Athéniens ont su armer une flotte en quelques semaines pour aller porter secours à l'un de leurs chefs, que les Spartiates bloquaient dans le port de Mytilène, sur l'île de Lesbos. Athènes a même pris une décision extraordinaire, accorder la citoyenneté athénienne aux résidents étrangers, ce qu'on appelait alors les métèques, sans la valeur péjorative que prend ce mot aujourd'hui, et même aux esclaves qui participeraient à l'effort de guerre en s'enrôlant sur les navires. Les Athéniens ont engagé une grande bataille et l'ont gagnée, en ne perdant, dit-on, que 25 navires, les Spartiates 75. Mais juste après ce succès, une grande tempête s'est levée. Et les Athéniens n'ont pas pu repêcher les survivants des 25 navires coulés et n'ont pas pu récupérer les cadavres des morts, qui ont ainsi été condamnés à n'avoir jamais de sépulture. D'un point de vue religieux, c'est un scandale. Les généraux victorieux, une fois rentrés à Athènes, n'ont pas été célébrés ou félicités, mais sont passés en procès. Les familles en deuil ont réclamé leur mort. Ceux qui ne s'étaient pas échappés ont été exécutés. Athènes avait été victorieuse, mais elle s'est auto-mutilée. Ça n'allait que se dégrader. Pourquoi je raconte tout cela? Pourquoi me fixer sur cette année 405 avant Jésus-Christ? C'est parce que juste après toute cette histoire mouvementée, juste après les disparitions d'Euripide et de Sophocle, il y a eu en l'an 405 un grand événement théâtral. Il y a eu une comédie qui a fait le point sur la situation militaire, politique et poétique d'Athènes. Cette comédie a été écrite par Aristophane. Elle s'appelle « Les grenouilles », une pièce extraordinaire, comme toutes les comédies d'Aristophane, en fait.
Sylvana Milanesi, professeure d'histoire grecque.
La comédie, c'est le monde à l'envers, c'est le monde du plaisir, et les rires, c'est les plaisirs partagés, un rire construit par les poètes qui guident les publics dans ces vastes chemins.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix? Oui, vous m'avez compris, je parle de ce vent qui sort du trou de Baale. De ce très curieux bruit qui monte incongruement, parfois dessous la table, qui va pétaradant sous la soie ou la toile, qui fait rire les enfants et s'esclaffer le diable. Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix?
ce chanteur pompe l'air, ses paroles sont creuses, sa musique minable. Dans sa sono d'enfer, il gonfle les joyeuses des spectateurs affables. Soudain du premier rang, au milieu d'un silence, quelqu'un se lève et oh, jette une flatulence. Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix? Je suis transi près d'elle, je lui fais tendre cours dans son petit boudoir. Mes yeux dans ses prunelles, je lui parle d'amour, de ma bouche guitare. Tout à coup, patata, adieu, heureux exquise. Ça ne se commande pas, je lui lâche une Louise. Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix? Un jour à la télé, en royaume d'absurdie, sur la septième chaîne, je rêve qu'un PPD, qu'un Yves Mouzouri, qu'une Christine obscène. En guise de journal, pour les Dupont qui bouffent, je sais c'est un scandale, leur balance une louffe. Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix? À tous ceux qui me gueulent, demi-tour gauche, une, deux, rallie mon blanc panache. À tous les vats de la gueule, tous les beaufs, les hargneux, les adultes, les vaches. Pas un mot, pas un cri, je garde les lèvres closes. In petto, je souris, j'ai trouvé autre chose. Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix? Quoi de plus redoutable qu'un paix?
Pierre Judet de la Combe nous emmène aux enfers pour rire avec le comique Aristophane et ses grenouilles.
Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Dans ces grenouilles, Aristophane imagine que le dieu du théâtre, Dionysos, est accablé par la mort d'Euripide, son poète préféré. Il ne supporte pas son absence et veut absolument voir de nouvelles tragédies de lui. Il n'y a qu'une seule solution, aller chercher Euripide sous terre, dans les enfers, et le faire remonter à l'air libre, à la lumière, pour qu'il se remette à produire des spectacles. La difficulté, c'est que les enfers, Dionysos ne sait pas comment y aller, et ça fait peur. On raconte des tas de choses sur les eaux glauques qu'il faudrait traverser, sur les monstres qui y pullulent, comme l'affreux chien Cerbère avec toutes ses têtes dévorantes. Et puis Dionysos n'est pas très costaud, il est bedonnant, à force de boire et de faire la fête. Il est plutôt féminin, il ne peut pas affronter ce monde inconnu, mais il tient absolument à ramener Euripide chez les vivants. Mais comme toujours, le dieu de l'illusion du théâtre se déguise. Il prend les accessoires de son demi-frère Héraclès, la massue, et la peau du lion de Némée, ou plutôt une imitation, pas la vraie. Il va essayer de se faire passer pour le grand et fort et terrifiant Héraclès, car Héraclès, lui, est bien arrivé à entrer dans les ténèbres affreuses des enfers, à enchaîner le chien Cerbère et à le traîner jusqu'à la surface de la terre, avec obligation de le rendre, car sur terre, ce chien ne pouvait servir à rien. Dionysos pense qu'il va impressionner tout le monde aux enfers, les gardiens et même Pluton, le dieu qui règne là-bas. En fait, Dionysos porte un double déguisement, l'un sur l'autre, comme acteur de tragédie, avec une robe de safran et des cothurnes, des chaussures hautes, et un déguisement d'Héraclès avec la massue et la peau de lion. Dionysos est vraiment insaisissable. Il faut absolument qu'il voie Héraclès, son demi-frère, car il n'a aucune idée du chemin à prendre pour aller en bas. Héraclès devrait le renseigner. Il chemine vers la maison d'Héraclès avec son esclave Xantias, comme Don Quichotte et son écuyer Sancho Panza. Xantias porte un lourd bagage à l'épaule. Le voyage sera long. Xantias se plaint évidemment du poids qu'il porte et menace d'exprimer sa souffrance par un vacarme retentissant, issu de ses entrailles, ou pire. Il demande à Dionysos la permission de péter, comme ça se fait si souvent dans les comédies. Mais Dionysos lui rétorque que c'est vulgaire, que le théâtre qu'il aime est raffiné et évite ses grossièretés. Mais évidemment, à force de dire ce qu'il ne faut pas dire, on finit par le dire, et même de manière insistante. C'est le tout début de la pièce.
Xanthias.
Est-ce que je peux dire, maître, l'un des mots habituels qui font chaque fois rire les spectateurs ? Dionysos.
Oui, nom de Zeus, ce que tu voudras, sauf j'ai la pression. Fais attention, aujourd'hui il n'en sort que de la bile.
Et pas quelque autre mot raffiné ?
Tout, sauf je vais lâcher.
Mais alors quoi ? Je peux dire le mot absolument drôle ?
Au nom de Zeus, oui, prends ton courage. Tâche seulement de ne pas dire cette chose-là.
Quelle chose-là ?
Qu'en changeant ton porte-charge de côté, tu as envie de chier.
Et pas que, devant porter sur moi un fardeau si grand, si on ne me l'enlève pas, je péterai jusqu'au bout ?
Non, je t'en supplie, sauf si je dois vomir.
Mais alors, pourquoi devais-je porter ce bagage si je ne peux rien faire de ce que les phrynikos font d'habitude, et les lykis et les amipsias, chaque fois qu'ils portent un bagage dans une comédie ?
Non, n'en fais rien, car quand je suis spectateur et que j'assiste à ces finesses, je ressors vieilli de plus d'une année.
Dionysos et Xanthias arrivent à la maison d'Héraclès, qui éclate de rire quand il voit Dionysos, son demi-frère, accoutré comme il est. Dionysos lui explique l'objet de sa visite. D'abord, il doit lui dire qu'il est pris d'un manque irrépressible, immaîtrisable, d'Euripide, qui vient de mourir. Comme il sait qu'Héraclès est un peu brut, un culte, qu'il ne s'intéresse pas à la poésie, mais plutôt à la nourriture, il doit trouver le moyen de se faire comprendre. Dionysos lui raconte qu'il venait de participer à une immense bataille navale, sans doute celle que les Athéniens venaient de gagner contre les Spartiates. Il a coulé 12 ou 13 navires, puis, sur son bateau, il s'est mis à lire une pièce d'Euripide, Andromède. C'est là qu'un désir frénétique l'a pris.
Héraclès.
Tu t'es battu sur mer ? Dionysos.
Eh oui, nous avons mis par le fond 12 bateaux ennemis, ou 13.
Vous deux ?
Oui, au nom d'Apollon. Et voilà que sur le bateau, alors que j'étais en train de lire Andromède, tout d'un coup, en moi, un désir vint me cogner le cœur avec la véhémence que tu imagines.
Héraclès n'imagine pas du tout. Il pense à une autre forme de désir. Dionysos devra le guider pas à pas.
Un désir ? De quelle dimension ?
Petit, comme l'est l'acteur Molone.
D'une femme ?
Mais non.
Alors d'un garçon ?
Pas du tout.
Alors d'un homme ?
Non, de nom, de nom.
Tu es allé avec Clisthène ?
Ne te moque pas, mon frère. Non, car je vais mal. Je suis dévasté par une telle passion.
Quelle sorte de passion, mon petit frère ?
Je ne sais pas le dire. Mais pourtant, je le dirai par énigme. T'est-il déjà arrivé d'avoir, tout d'un coup, une envie de purée ?
De purée ? Misère ! 10 000 fois dans ma vie !
T'instruis-je clairement ou dois-je parler autrement ?
Non, ça va. Pour la purée, je comprends tout.
Eh bien donc, me dévore un semblable désir d'Euripide.
Tu veux dire de celui qui est mort ?
Et personne chez les hommes ne me persuadera de ne pas aller le chercher.
Héraclès est étonné. Il y a tellement d'auteurs de tragédies à Athènes, ils pullulent. Dionysos devrait facilement trouver son bonheur chez les vivants. Mais, selon Dionysos, ils sont tous nuls.
Mais, à part ça, ne trouve-t-on pas ici des petits mignons, par milliers et plus, qui écrivent des tragédies et qui, en bavardage, devancent Euripide de plus d'un stade ?
C'est de la petite grappe et des babilleurs, de la muse d'hirondelle, des outrageurs de l'art. Ils s'en vont au plus vite, pour peu qu'ils obtiennent un cœur. Dès qu'ils ont une seule fois compissé la tragédie, cherche et tu ne trouveras plus un poète généreux, un qui sache faire sonner un verbe noble.
Dionysos doit expliquer à Héraclès, l'ignorant, ce qu'est un poète généreux. C'est un poète qui ose, qui n'a pas froid aux yeux, qui trouve des images étonnantes et construit des phrases compliquées.
Comment ça, généreux ?
Généreux, cela veut dire qu'il prononce une parole risquée comme celle-là. Azur, la petite chambre à coucher de Zeus, ou le pied du temps, ou l'esprit se refusant quant à lui à jurer sur les offrandes, quand la langue, quant à elle, se parjure séparée de l'esprit.
Et toi, ça te plaît ?
Ne dis pas ça, j'en suis plus que fou.
Mais ce sont de mauvaises farces et tu le penses aussi.
Ne viens pas prendre maison dans mon esprit, tu as ton chez-toi.
Tu sais, cela pour moi est tout simplement totalement minable.
L'avant-garde littéraire ne peut pas plaire à un gros rusto comme Héraclès. Dionysos demande à Héraclès de lui indiquer le chemin pour aller dans les enfers, par où il faut passer, et les aires de repos, les boulangeries, les bordels, les auberges où il y a le moins de punaises dans les lits. Héraclès lui répond que le chemin le plus court pour aller chez les morts, c'est le suicide. Mais Dionysos n'est pas d'accord. Alors Héraclès lui trace la route. Il annonce le fleuve à traverser sur une petite barque, puis les monstres, les serpents, la fange où croupissent les pires criminels. Puis viendra un moment de lumière, de chant et de flûte. Dionysos rencontrera des fidèles, des fervents de lui, le dieu, des initiés au mystère de Bacchos Dionysos, qui lui indiqueront le chemin. Dionysos n'a pas peur et s'en va avec Xanthias. Comme l'avait annoncé Héraclès, il tombe d'abord sur une eau sombre, un fleuve, qui longe le pays des morts. Il faut le franchir sur une barque en payant 2 oboles pour le passage. Et en plus, il faut ramer soi-même. Dionysos s'installe sur la barque et à peine a-t-il commencé à ramer qu'il entend un chant, le chant des grenouilles. Ce chant commence par un vrai couac, puis devient très raffiné. Mais Dionysos ne le supporte pas. Assis dans sa barque, il rame, il s'use le derrière, et il en a assez.
Fille des sources paludéennes, le cri des champs avec ses flûtes, prononçons-le, ma poésie, bellement vocalique. Que pour le dieu de Nysa, Dionysos, fils de Zeus, au palud, en fait, nous crions quand la clique migraineuse des bourrées, au jour des peaux sacrées, pénètre mon enclos sacré en foule citoyenne. Dionysos.
Oui, mais moi je commence à pâtir du cul. Au coax, coax.
Coax, coax.
Pour vous, sans doute, ce n'est nul souci.
Coax, coax.
Mais crevez jusqu'à la dernière avec ce coax, car vous n'êtes que du coax.
Et c'est non sans raison, ô l'agité, car me ravissent les muses et leurs belles lyres, et Pan le monté sur corne, enfantilleur au son de calame, et Apollon le citariste nous fait surjouir à cause du roseau que pour tenir le dessous des lyres aquatiques dans les paludes nous cultivons.
Oui, mais moi, j'ai des cloques. Et l'anus me sue depuis un moment. Si bien que bientôt, tout penché, il sortira et dira...
Les grenouilles chantent leur dieu Dionysos, avec toutes les grâces musicales possibles. Mais elles ne reconnaissent pas ce dieu dans le rameur qui râle à se fatiguer dans sa barque et qui menace non pas de chanter, mais de laisser parler son postérieur. La musique n'adoucit pas les mœurs.
Pierre Desproges.
Elle est assez bornée pour les choses de la vie, mais elle a quand même une qualité qui est exceptionnelle chez les grenouilles, c'est que Fifine sait compter.
Vous l'avez dressée à compter ?
Elle sait compter, elle sait faire des opérations simples, évidemment, peut-être pas des racines carrées, parce qu'elle n'a pas encore déjeuné, donc elle est un petit peu faible d'esprit, mais enfin, elle peut quand même...
Alors, 1 et 1, c'est la réponse.
Fifine, 1 et 1.
C'est exceptionnel.
Oui, c'est intéressant.
Mais on va compliquer un peu. Alors, est-ce qu'elle est forte en histoire de France ?
Vous voulez qu'elle vous donne
la date de la bataille de Marignan ?
La date de la bataille de Marignan. Fifine, la date de la bataille de Marignan. Allez.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Another rainbow.
Pierre Judet de la Combe raconte Dionysos, parti dans les enfers à la recherche de son poète favori, Euripide.
Dionysos débarque. Il se conchit d'effroi parce qu'un monstre surgit de l'ombre. Puis vient un vrai moment de beauté et de bonheur. Un cœur de personnes initiées au mystère de Dionysos. Un cœur lumineux chante les louanges de leur dieu. Elles appellent ce dieu. Lui demande de les rejoindre, mais elle ne voit même pas que Dionysos est déjà là, devant elle. C'est vrai qu'il s'est déguisé en Héraclès. Décidément, la musique religieuse est totalement à côté de la plaque, coupée du réel. Aristophane rigole. Dionysos et Xanthias vont enfin entrer dans le palais du maître des enfers, le dieu Pluton. Le problème, c'est que Dionysos s'est déguisé en Héraclès, et qu'Héraclès a laissé un très mauvais souvenir lors de son passage dans les enfers. Il avait enlevé le chien Cerbère, et il avait mangé tous les stocks d'une auberge, sans payer. À peine Dionysos a-t-il frappé à la porte en se présentant comme Héraclès le fort, qu'il suscite la colère virulente du portier. Il se conchit une seconde fois.
Dionysos.
Petit. Petit. Le portier.
Qui est-ce ?
Héraclès, le fort.
Oh, toi, empuanti, impudique, insolent, et salaud total, et salissime, toi qui emporta notre chien à nous, Cerbère, qui le garrotta, couru pour filer avec quand j'en avais la garde. Maintenant tu es cerné, car si haute la pierre au cœur d'ombre du Styx et le rocher de l'Achéron qui fait sourdre le sang te surveille et les chiens tournoyants du Cocyte et la vipère aux 100 têtes qui t'écartèlera les entrailles. À tes poumons s'accrochera une murène à la tartésienne et tes deux rognons baignant dans leur sang avec tes entrailles. Les femmes du faubourg de Titras, les gorgones, les disperseront. Elles, vers qui moi, je fais saillir un pied qui court.
Xanthias à Dionysos.
Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?
J'ai fait sacrifice de ma merde.
Dionysos essaye de passer le costume d'Héraclès à Xanthias pour qu'il se fasse casser la figure à sa place. Mais ça ne marche pas vraiment. Le dieu prend des coups. Finalement, comme on ne sait pas qui est le dieu et qui est l'esclave, on les laisse entrer tous les deux. Dionysos et Xanthias dans la maison du dieu Pluton, qui tranchera. À ce moment précis, quand les portes de la maison des morts vont enfin s'ouvrir pour Dionysos, la fiction comique s'arrête brutalement. Le drame marque une pause pour quelques minutes. Le cœur, au lieu de continuer à faire le clown avec ses chants invraisemblables, devient tout d'un coup sérieux et parle politique. Il intervient directement dans les débats très vifs, très tendus de l'année 405. Le chef du chœur, le coryphée, s'avance vers les spectateurs et fait un discours où il donne son avis sur des décisions politiques récentes. Il trouve qu'il faudrait rendre leur citoyenneté aux Athéniens qui ont participé aux entreprises de destruction de la démocratie et qui ont été finalement vaincus. Ces antidémocrates étaient braves, utiles, de bonne famille. Il faut les réintégrer, dit le coryphée. Il dit encore que les démocrates ont sans doute eu raison de donner la citoyenneté aux étrangers et aux esclaves qui ont participé à la grande bataille navale gagnée par Athènes. Mais c'est absurde, ignoble même, de l'enlever à ceux qui sont athéniens depuis toujours. La cité a besoin de tout le monde, tant la situation cette année-là est critique. Par la bouche de son chef de chœur, Aristophane donne un avis très clair et vigoureux à son public.
Maintenant donc, ô vous les idiots, changez de manière, refaites usage des gens d'usage. Si le succès est là, c'est la gloire. Et si vous devez vous étaler, noble au moins sera la bûche s'il vous arrive malheur. C'est ce que les sages penseront de votre mal.
Et les Athéniens vont s'étaler l'année d'après. Ils seront sévèrement défaits par les Spartiates. Mais l'avis d'Aristophane aura été entendu. Les Athéniens qui s'étaient opposés à la démocratie seront réintégrés. La comédie pouvait donc faire de la politique directement, sans cesser d'être de la comédie. Ce n'était en rien incompatible. La fantasmagorie comique, avec le cœur des grenouilles, avec les enfers peuplés de monstres, avec les fantômes d'Euripide et d'Eschyle qui vont bientôt apparaître sur scène, a quelque chose de commun avec la critique politique radicale de la réalité d'Athènes telle qu'elle est. Fantasmagorie et critique politique sont solidaires. Ce sont deux moyens de se libérer de la réalité du moment qui est mauvaise. La critique désigne les défauts d'Athènes et dit ce qu'il faut faire pour y remédier. L'imagination comique, avec ses labyrinthes incongrus, avec ses délires imprévisibles, ouvre sur un autre monde où tout ce qu'on peut reprocher à Athènes n'existerait pas, serait dépassé. Un monde libre. Après cette tirade politique, d'un seul coup, le drame reprend. Dionysos entre enfin dans la maison du dieu Pluton, le dieu des morts. Il arrive au but de son voyage. Il pense qu'il va retrouver Euripide et pouvoir le ramener chez les vivants. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Un grand tintamarre éclate. Ça hurle de partout. En fait, une querelle immense vient de se lever. Euripide, le nouveau venu chez les morts, prétend enlever au vieux poète Eschyle le poste de responsable de la tragédie dans les enfers. Le poste très prestigieux de premier poète tragique chez les décédés. Eschyle, qui occupe ce poste depuis des dizaines d'années, n'est évidemment pas d'accord pour laisser sa place. Il n'a que du mépris pour le nouveau poète Euripide, qui, selon lui, a complètement dénaturé la tragédie, qu'il a corrompue. D'ailleurs, parmi les morts, ce sont les filous et les escrocs qui soutiennent Euripide. Un duel va avoir lieu. Les deux poètes vont se battre à coups de citations, de parodies, de déclarations sur l'art tragique. Et surprise, le dieu des enfers, Pluton, demande à Dionysos, le dieu du théâtre, d'arbitrer le combat puisqu'il est là. C'est lui qui s'y connaît le mieux en art tragique. La lutte va s'engager. Elle sera savante et rude. Ça chauffe tout de suite. Les deux combattants, Eschyle l'ancien et Euripide le moderne, se haïssent. Durant leur vie, ils ne se sont jamais combattus, pièce contre pièce, tragédie contre tragédie. Euripide a commencé sa carrière juste après la mort d'Eschyle, enfin dans les enfers, après leur mort à tous les deux, l'occasion est donnée de les entendre se disputer.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Les bavards, pépis, chapelets d'oisillons sur un arbre blotti au matin qui sent bon. Ils se délient gazouillent, murmurent leurs états d'âme, font vibrer leurs bafouilles, fanfaronnent, nous exclament. Les bavards tricotent à l'endroit, à l'envers, des pelotes de mots qui dénouent pour en faire des histoires en cohorte, atorées à travers des roses ou bien des noirs, des graves ou des légères. Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Si le silence est d'or, alors ils n'ont plus rien qu'un manteau de paroles sur leur peau de chagrin. Dans l'ascenseur coincé, comme les bavards jubiles, jamais à court d'idées ou de propos futiles pour dire le temps qu'il fait ou la fraîcheur du soir devant l'autre qui se tait mais n'a plus peur du noir. Les bavards mutins babillent dans l'amour sous des draps de satin en causant sans détour et du flot continu. Quelle douce litanie dont parfois des mots crus s'évadent au creux du lit. Parfois pendus au fil de la conversation. Les bavards s'endorment en récitant tout haut des poèmes chloroformes ou des moutons bateaux, en jambes un peu hagards, des montagnes de mots et des phrases et des lettres et des phrases et des lettres et des phrases.
Pierre Judet de Lacombe relate la lutte féroce entre deux poètes de tragédie, Eschyle et Euripide.
Euripide, le plus jeune, attaque le premier. Il reproche à Eschyle d'avoir fait du lourd, de l'incompréhensible, du pénible. Eschyle voulait être sublime, impressionnant, et a inventé n'importe quoi pour que le public soit surpris et captivé. Par exemple, il laissait ses personnages longtemps sans parler, sous un voile, dans un silence énigmatique. Puis tout d'un coup, il déchaînait des flots de paroles que personne n'avait jamais entendues. On ne parlait que de guerre, d'armes, de vaillance virile, avec des mots inconnus.
Euripide.
Pour commencer, il prenait un seul acteur, le faisait asseoir, voilé, Achille ou Niobé, comme tu voudras, sans montrer son visage, juste un décor pour sa tragédie, et qui murmurait que dalle. Dionysos.
Non, c'est vrai, nom de Zeus, rien.
Et le chœur plantait quatre rangées de chants à la suite, sans s'arrêter. Et eux se taisaient.
Mais moi, j'avais plaisir à ce silence. Et il ne me charmait pas moins que les bavards d'aujourd'hui.
C'est que tu étais un imbécile. Sache-le.
C'est ce que je pense aussi. Mais pourquoi il faisait cela, ce qui qu'il soit?
Par imposture. Pour que le spectateur reste assis et attende le moment où la Niobé ouvrirait la bouche. Et le drame avançait.
Oh, le totalement salaud. Comme il savait me posséder.
À Eschyle.
Pourquoi te tortilles-tu et fais-tu l'inquiet, Euripide?
Parce que je le réfute entièrement. Après avoir fait ses sottises et que le drame en arrive à sa moitié, il disait une douzaine de mots de bœuf, montés de sourcils et d'aigrettes, d'effrayantes grimaceries, inconnu du public.
Eschyle.
Hélas, mon malheur.
Tais-toi, Euripide.
Mais de compréhensible, rien. Pas un mot. Dionysos à Échille.
Ne te rabote pas les dents, Euripide.
Mais rien que Scamandre, fossé et sur des emblèmes, aigle crochu forgé des reins et des paroles dressées sur des chevaux. Pas facile à comprendre.
Euripide était au contraire pour un art simple, proche des gens normaux, avec des personnages qui parlent comme eux, qui s'intéressent à la vie normale, quotidienne. Il voulait leur apprendre à parler. Pour ça, il mettait beaucoup de science dans ses pièces, après avoir lu beaucoup de livres. Mais il les rendait simples, pas prétentieux, pas bégueule. Il s'est fait aider pour ses mélodies par l'amant de sa femme, un dénommé Séphisophon. Euripide était libre.
Mais du jour où de toi j'ai reçu le métier, du tout premier jour, alors qu'il était enflé d'emphase et de fardeau de mots, je l'ai fait sécher tout d'abord. Et je lui ai enlevé du poids par des réductions de verre, des promenades et de la poirée blanche. Je lui ai donné du jus de Babil en tamisant des livres. Et puis, je l'ai remonté avec des solos en y mélangeant du Séphisophon. Et puis, je ne racontais pas n'importe quoi, ni ne brouillais tout par mes assauts. Mais je faisais dire au premier acteur qui sortait tout de suite l'origine du drame.
Échille.
Et ça valait mieux, nom de Zeus, que de dire la tienne.
Euripide.
Et puis, dès les premiers vers, je ne laissais personne sans rien faire. Mais la femme, pas moins que l'esclave, avait à parler. Et le maître, et la vierge, ou la vieille, selon.
Échille.
Et avec ça, on ne te forçait pas à mourir pour toutes ces audaces ?
Euripide.
Mais par Apollon, c'était démocratique ce que je faisais. Dionysos.
Laisse tomber, cher ami. Une petite promenade sur ce thème ne te ferait pas beaucoup de bien.
Résultat, les Athéniens, à cause d'Euripide, savent parler, communiquer, raisonner, questionner, argumenter. Ils n'obéissent plus aux ordres de la cité. Ils perdent un temps fou à peser le pour et le contre. Par exemple, ils ne savent plus faire avancer droit en ramant en cadence la grande galère de l'État, qu'on appelait la parallienne. Ils discutent démocratiquement et la galère n'avance pas. Avec Échille, c'était plus discipliné, plus rigoureux.
Échille.
Et puis, tu leur as enseigné à pratiquer le bavardage et le jacassage, qui ont totalement vidé les gymnases et usé à fond les fesses des garçons jacassants. Et tu as convaincu les marins de la parallienne de répliquer à leur chef, tandis qu'à l'époque, quand je vivais, ils ne savaient que demander leur pain et dire « souk et souk et souk ». Dionysos.
Oui, nom d'Apollon, et à péter dans la bouche de celui du rang de dessous, à merder sur le camarade et à terre, à dépouiller les gens. Maintenant, il controverse, et sans plus ramer, il vogue de ci et vogue de là.
Bref, selon Échille, si Athènes en est où elle est, à deux doigts du désastre, c'est qu'un poète comme Euripide a corrompu les Athéniens en leur apprenant l'art de la dispute, de l'argumentation sans fin. Les citoyens ont perdu le sens de l'action, de l'urgence, du bien commun. L'art est responsable de cette décadence. Puis, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut juger sur pièce et examiner la technique de chacun des poètes. Échille essaye de montrer qu'Euripide ne sait pas composer ses vers. À chaque vers, ou presque, on peut ajouter n'importe quoi. Par exemple, une gonflette. Avec ce mot « gonflette », Échille désigne un petit vase au col allongé, de forme phallique.
Échille.
Eh bien, par Zeus, je ne vais pas racler vers après vers chacun de tes mots. Mais avec l'aide de Dieu, d'un coup de gonflette, j'anéantirai tes prologues.
Euripide.
Des gonflettes, toi, mes prologues.
Échille.
Et d'une seule, car tu composes de telle manière que tout s'adapte, barbichette, ainsi que gonflette, ainsi que boursette, dans tes vers iambiques. Je te le montre tout de suite, Dionysos.
Regarde-moi ça. Tu vas le montrer, Échille.
Oui, Dionysos à Euripide.
Maintenant, il te faut dire. Euripide lisant le début d'une de ses pièces.
Égyptos, comme nombreuse s'en est répandue l'histoire, avec 50 fils, quand la rame des marins lui conduit à Argos,
Échille
égara sa gonflette. Dionysos.
C'est quoi cette gonflette ? Qu'il en gémisse.
Dis-lui un autre prologue, que je me rende compte à nouveau. Euripide.
Dionysos, saint de Tyrse et de peau de faon, qui, au milieu des pins, à travers le Parnasse, bondit dans sa danse.
Échille.
Égara sa gonflette. Dionysos.
Oh malheur, nous sommes frappés à nouveau d'un gonfleur.
Et ça continue. Chez Échille, ce n'est pas mieux. Échille était très célèbre pour ses grands chants de cœur, très solennels. Euripide va lui montrer que ce ne sont que des bruits, toujours les mêmes, comme si se répétait toujours la même musique, qui, en plus, était obscène. Euripide récite des bouts de chants tragiques d'Échille. Ils sont ampoulés et dépourvus de sens. Euripide imite par une onomatopée bizarre, toflatotrat, toflatotrat, le son de la cithare qui accompagne le chant. En fait, cette onomatopée se laisse très bien interpréter.
Euripide.
Je sais dire comment le pouvoir des Achéens et ses deux trônes régnant sur la jeunesse grecque...
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Envoie la sphinge, chienne qui administre les jours mauvais.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Avec la lance et le bras vengeur, un oiseau fou de guerre.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Qui offre une aubaine aux chiens ardents, rôdeurs de l'air.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Ainsi que la faction inclinant du côté d'Ajax.
Toflatotrat, gratatapine, gratatapine.
Vient la dernière épreuve. Il faut savoir quel poids ont les mots d'Échille et d'Euripide. Lesquels comptent vraiment, sont les plus lourds. On apporte une grande balance. Et comme Zeus, dans l'Iliade, pèse dans sa balance les destins d'Hector et d'Achille, on pèsera les vers d'Échille et d'Euripide. Euripide dépose dans le plateau de la balance des vers élégants, subtils, où il est question d'envol, de persuasion, de jeu de dés, pas bête. Échille met dans la balance des vers bien lourds, avec des bœufs mouillés, des chars et le mal le plus pesant, la mort. Échille gagne à chaque fois. Dionysos est toujours amoureux de l'art d'Euripide, mais les réponses du vieil Échille l'ont impressionné. Il ne sait pas qui choisir, qui déclarer vainqueur. Arrive un coup de théâtre. Le dieu Pluton, le maître des enfers, fait une annonce. Dionysos, dit-il, pourra ramener parmi les vivants à Athènes le poète qu'il aura désigné comme le meilleur. Dionysos dit alors pourquoi il est descendu parmi les morts. On comprend alors clairement que politique et poésie, c'est la même chose. Le plaisir de pouvoir assister à de belles tragédies et le salut de la cité vont ensemble, c'est la même cause. La cité ne pourra organiser de vrais et beaux spectacles que si elle est sauvée.
Dionysos.
Je suis descendu à la recherche d'un poète. Dans quel but ? Pour que la cité, si elle est sauvée, organise des chœurs. Quiconque de vous deux va conseiller à la cité quoi que ce soit d'utile, je décide de le prendre.
Dionysos va mettre les deux adversaires à l'épreuve, non pas avec des questions d'art théâtral, mais des questions politiques. Dionysos leur demande ce qu'il faut faire pour sauver Athènes, qui est à deux doigts de l'effondrement. Les poètes se font conseiller politique. Euripide répond d'abord par une fantaisie comique, une attaque aérienne des bateaux spartiates. Il propose qu'on donne des ailes à un Athénien et des burettes de vinaigre. Il irait par les airs les verser sur les yeux des spartiates. Puis Euripide se ressaisit. Il avoue que les burettes, c'est une idée de l'amant de sa femme. Et il donne son avis, qui est un peu tordu. Puisque les dirigeants sont désastreux, il faut tout simplement les changer et faire l'inverse de ce qu'ils font.
Euripide.
Si aux citoyens à qui va notre confiance aujourd'hui, nous ne faisions pas confiance, et si de ceux dont nous ne faisons pas usage, nous faisions usage, le salut serait pour nous. Puisqu'en cela nous sommes malheureux, comment, si nous faisons le contraire, ne serions-nous pas sauvés ?
C'est du vrai Euripide. Tout reposerait sur l'accord entre citoyens grâce à la persuasion, au langage. Échille est plus géopolitique, plus global. Il donne un avis sensé. Athènes doit renoncer à reconquérir les terres qui lui appartiennent et que les Spartiates occupent. Athènes doit attaquer par la mer Sparte, là où elle s'y attend le moins. Il faut être pragmatique et renoncer à défendre pied à pied la terre sacrée de la patrie. Dionysos est convaincu par cette proposition. Il choisit donc Échille. C'est lui qui remontera la lumière et fera du théâtre à Athènes. C'est un renversement total de son projet initial. Il était venu chercher Euripide. Il remonte avec Eschyle. Euripide est furieux. Pluton confie une mission à Eschyle, qui va retrouver les citoyens d'Athènes. Il lui donne une épée tranchante pour que des dirigeants politiques importants s'envoient au plus vite dans la maison des morts, le royaume de Pluton. Eschyle, le poète tragique, devra se faire aussi cruel que l'est un poète de comédie, avec ses injures féroces. Est-ce qu'Aristophane pense vraiment que la tragédie à l'ancienne d'Eschyle peut sauver Athènes? Sans doute pas. La force d'Eschyle, le poète de la violence des mots, de l'intransigeance, vient de ce qu'il témoigne d'un passé glorieux, énergique et victorieux d'Athènes. Son retour, depuis les ombres du passé, serait un choc salutaire. La poésie qui gagne vraiment, celle qui sait montrer réellement où en est la cité, qu'il faut rééduquer, est la comédie. Avec le rire, tout peut être analysé, montré, mis à distance. Les idéologies, les appartenances exclusives s'effondrent et on est content, libéré. Le comique prime. Eschyle, Euripide, d'un côté, Eschyle qui force les choses, le monde, par ses mots vigoureux. De l'autre, un Euripide qui s'amuse à surfer sur les incohérences, les ambiguïtés du monde. Leur opposition pourrait-elle être actuelle? On pourrait dire pour le théâtre, Bertolt Brecht, le si souvent sérieux dans le rôle d'Eschyle. Et en Euripide, Samuel Beckett, qui sait mettre des ailes à tous les mots qu'il emploie. En poésie, René Char, le rocailleux, face à Henri Michaud, au magnifique dérapage intérieur. En musique, les Rolling Stones, bien carrés malgré leur nom, face au Velvet Underground. Dans une autre discipline artistique, Eric Cantona, bien solide à Manchester, face au jeu si euripidéen de Kylian Mbappé. Chacun peut faire sa liste. L'important est d'avoir les deux ensemble. Et ça, c'est la comédie, avec son humour qui se mêle de tout, sans préjugés, qui le permet. Telle est la leçon d'Aristophane.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Anna Massardier. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Benjamin Vignal et le mixage par Stéphane Touvenin. La semaine prochaine, nous voyagerons avec Europe, la princesse venue d'Asie. Après le journal, nous retrouvons Thomas Snegaroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, quel est votre invité aujourd'hui?
Bonjour Pierre, à midi, retour sur les valeurs démocratiques de l'Europe avec la politiste Justine Lacroix.
Un monde presque parfait, le nouveau best-seller de Laurent Gounel. Parce que choisir sa vie, c'est choisir son monde, David Lissner se risque à une mission de haute sécurité pour sauver sa société hyper connectée. Mais pourquoi David fait-il exactement ce qu'on attend de lui? Sur son chemin, Ève, une jeune femme libre, n'entend pas se laisser dicter sa vie. Un monde presque parfait, de Laurent Gounel. Un roman initiatique qui donne envie de retrouver son pouvoir de décision et sa liberté. Aux éditions Mazarine.
Radio France et la Cinémathèque française présentent Napoléon, vu par Abel Gance. Un ciné-concert événement sur écran géant avec 250 musiciens sur scène. L'épopée napoléonienne d'Abel Gance, dévoilée en version intégrale et définitive de 7h en 2 soirées, les 4 et 5 juillet à la scène musicale. Avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France. Avec le soutien du CNC.
On sait que certains pensent qu'un téléphone dernier cri...
Bah, c'est pas donné.
Et que le reconditionné...
On sait pas toujours sur quoi on tombe.
Mais chez Orange, les téléphones reconditionnés sont testés et vendus avec une garantie commerciale de 24 mois. En plus, du 16 au 22 mai, c'est la semaine du reconditionné. L'occasion idéale pour découvrir notre sélection à prix réduit.
Ah, alors là, d'accord.